Il est 8h exactement sur Radio Panique. Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube. Je suis en compagnie de Sébastien Franco. Bienvenue Sébastien. Tu travailles au Grésea et tu es venu nous parler du dernier numéro de Grésea Éco, capitalisme déconfiné, transformation et résistance.
Bonjour.
Bienvenue donc dans ces promesses de l'aube du 17 novembre. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci à toi, de m'accueillir et d'initier cette discussion.
Et donc, on se rappelle qu'il y a un an, vous aviez déjà au Grésea, vous étiez penché sur le Covid, sur le confinement, sur les conséquences que ça pouvait avoir. Vous aviez consacré un Grésea Éco au sujet. Un an après, vous avez souhaité refaire un petit topo et le topo est pas réjouissant, même si le sous-titre de la revue Capitalisme déconfiné, transformation et résistance laisse à penser qu'il y a bien des résistances. Mais de transformation, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un monde d'avant reconduit ou d'un réel monde d'après ?
Oui, donc, en tout cas, au Grésea, cette pandémie qui dure déjà depuis plus de 2 ans, nous a évidemment, comme à tout le monde, posé beaucoup de questions. Elle met sur la table beaucoup d'éléments de notre quotidien et je pense qu'on va continuer à approfondir cette question. Et donc, en effet, on s'est posé cette question de savoir si le monde d'après, c'est un continuum, un approfondissement des dynamiques déjà en cours, ou si c'est des moments de rupture, en particulier dans certains éléments de la société. Et donc, c'est un peu cette question qui est au cœur de notre nouveau Grésea Éco. Et chacun et chacune des chercheurs et chercheuses du Grésea y a répondu ou a essayé de donner en tout cas des éléments de réponse par rapport à ces objets d'analyse privilégiés. Et donc voilà, c'est un peu cette question centrale de se demander si c'est on est dans la continuité du monde d'avant ou si rupture il y a. Et en effet, il n'y a pas sans doute une réponse définitive à cette question-là. On devra continuer à regarder de plus près les dynamiques du capitalisme contemporain pour continuer à donner des éléments de réponse. Donc je ne vais pas te donner pour l'instant une réponse. Peut-être à la fin de la discussion, on aura quelques éléments supplémentaires qui pourront nous éclairer sur les dynamiques à l'œuvre aujourd'hui.
Et justement, on se rappelle qu'au début de la pandémie et du confinement, le monde associatif, dont le Grésea fait partie, mais les syndicats aussi, d'autres mouvements sociaux en Belgique et organisations, avaient vraiment considéré que c'était sans doute une opportunité pour changer le système. Et donc, c'est pour ça qu'on a vite parlé le monde d'après sera ceci, cela, avec ce petit recul qu'on peut avoir maintenant et ce qui ressort un peu des différents articles qui composent la revue, c'est plutôt qu'on a gardé presque le pire du monde d'avant en le renforçant et que ce qui était positif avant a été un peu mis sur le côté. Ou est-ce que je dresse un portrait très sombre de la situation ? Il me semble que notamment, je ne sais pas par quel article on veut commencer, mais c'est vrai que dans cette revue, dans ce numéro, toi Sébastien, tu as écrit un article sur la situation en Colombie et le modèle de développement qui est toujours celui qui est mis en avant en Colombie et qui est ce modèle de développement où finalement on ne prête qu'aux riches et on continue avec un système destructeur de la planète et aussi qui augmente les inégalités.
Oui, donc en effet, je pense que tu ne dresses pas un tableau plus sombre que ce qu'il est déjà. En effet, je pense que le monde d'aujourd'hui est sous de nombreux égards pire que celui d'avant. Et en effet, c'est la situation en effet en Colombie, comme j'ai pu l'analyser dans l'article, c'est-à-dire que face aux difficultés venues de la pandémie, le choc économique que cela représente, les élites au pouvoir ont accentué, renforcé les politiques déjà à l'œuvre de transfert de richesses des classes populaires, classes moyennes, aux secteurs les plus aisés de la société. Ceci dit, en tout cas, vu l'état préalable de la Colombie, cela a atteint peut-être une frontière qui a fait que la société colombienne s'est mobilisée, a explosé dans une mobilisation inédite depuis de nombreuses décennies en Colombie, et ce qui a fait reculer le gouvernement. Et donc, mon analyse de ça, c'est que le monde d'après, qu'on a beaucoup rêvé dans les cartes blanches, qui proposait d'autres sociétés, d'autres manières de fonctionner pour la société, elles n'adviendront que si organisation il y a, que si mobilisation il y a, que si perspective politique collective il y a. Et donc, ça ne se fera pas tout seul, et je crois que c'est là le principal enseignement. Et je pense que ici en Belgique, en Europe plus particulièrement, mais dans beaucoup de pays du monde, on est dans une certaine sidération des mouvements sociaux. On doit repenser nos pratiques, repenser notre action collective dans les nouvelles conditions que sont celles de la pandémie, et ce nouveau contexte est difficile à appréhender et à prendre en compte dans les mouvements. Et donc, tant que nous resterons dans une certaine sidération, le monde d'avant s'accentuera, et les inégalités augmenteront, et les difficultés pour la majorité de la population mondiale continueront.
Et effectivement, à la lecture du dossier, mais en particulier de cet article sur la Colombie, où tu montres bien qu'il y a quand même un mouvement social qui ne faiblit pas, et qui est quand même qui s'est réveillé suite notamment à un projet de réforme fiscale du gouvernement. On peut se demander effectivement pourquoi on reste, tu parles de sidération, pourquoi ici il y a si peu de réactions en fait face à tout ce qui se passe, à la façon dont les gouvernements belges et occidentaux en général ont traité cette pandémie, ont géré cette crise sanitaire.
Oui, question assez difficile, mais je pense que ce qui se passe en Colombie ne date pas de l'année passée, ni d'il y a deux ans. Depuis longtemps, la pression monte en Colombie, mais aussi ailleurs en Amérique latine. On l'a vu au Chili, en Équateur, et donc c'est des sociétés qui sont quand même, sous certains égards, différentes de celles dans laquelle on vit. Les institutions sont fragiles, faibles, cooptées de manière beaucoup plus flagrante par les éléments les plus conservateurs et actionnaires de la société. Et donc, tout mouvement, mobilisation, est un processus de longue haleine, et donc de construction de conscience, d'apprentissage, d'organisation, de lien entre les différents secteurs. Et c'est à un moment donné, toujours difficile à prévoir et à anticiper, d'articulation de tout ça qui nous mène à une explosion sociale coordonnée et transformatrice. Donc, en effet, en Europe, on est, en Belgique en particulier, on n'est pas dans cette même configuration. On a, depuis des les décennies néolibérales, on a surtout eu une dépolitisation du débat, une démobilisation générale des, disons, des mouvements sociaux, mais depuis aussi le tournant des années 2000 avec le mouvement altermondialiste, on voit que voilà, qu'il y a eu une importante démobilisation et que il faut retrouver ces pratiques d'agir ensemble. Et je reviens là de Glasgow, où se déroulait donc la COP26. Et autour de cette COP26, les mouvements de justice climatique se réunissaient pour des discussions, des actions. Donc il y a eu une grande mobilisation à Glasgow, mais les discussions ont montré finalement peu, en tout cas c'est mon sentiment, peu de réflexions quant à l'organisation transversale de tous les secteurs de ce mouvement, peu de discussions sur l'organisation, sur comment prendre un certain pouvoir face à ceux et celles, surtout ceux qui décident réellement de l'avenir du monde. Et donc, voilà, j'ai senti le mouvement en retrait et peu en capacité de changer la réalité. Et donc là, je pense qu'il faut faire ce constat-là pour l'instant. Je pense qu'il faut toujours, c'est jamais définitif et que beaucoup de choses peuvent être faites pour avancer dans l'organisation. Ceci dit, il faut poser les questions qui doivent être posées, et parfois, peut-être par le recul dont je parlais tout à l'heure de la politisation générale, reposer les questions compliquées que sont celles de la prise de pouvoir, des outils dont peut se doter un mouvement divers et disons un peu atomisé pour pouvoir réellement peser. Et donc en effet, il y a eu beaucoup de théories sur la révolution dans les années au 19e, au 18e, au 20e siècle. Peut-être devons-nous repenser les théories révolutionnaires du 21e siècle et qui prennent en compte en fait le contexte différent malgré tout de ces époques.
Et comment on explique, qu'est-ce qui explique selon toi cette frilosité aussi du mouvement ou cette absence justement de réflexion sur ces questions que tu évoques?
Oui, écoute, traditionnellement, je pense que c'est la pensée communiste qui a posé ces questions en termes de révolution du prolétariat contre la bourgeoisie. Et donc, beaucoup des théories et des pratiques étaient basées sur cette compréhension-là du monde. Avec la chute du mur, la victoire, en tout cas temporaire, du capitalisme et un capitalisme décomplexé, une perte de pouvoir de cette pensée-là, notamment dans les jeunes générations. Et donc, c'est ce dont j'expliquais tout à l'heure, qui pour moi représentait une sorte de dépolitisation du débat. Et donc, on a aussi beaucoup théorisé le fait de ne pas s'attaquer au pouvoir, mais d'influer à travers la mobilisation sur ceux et celles qui décident. Et donc, voilà, je pense qu'on est un peu dans cette difficulté-là actuellement et que beaucoup d'organisations, que le débat au sein des organisations évite parfois ce débat. Mais je pense que c'est en train de changer beaucoup de secteurs aujourd'hui, en tout cas, reparlent de la de l'abolition du capitalisme, de la transformation vers une société autre que celle du capitalisme, chose qui, il y a 15-20 ans, était difficile à questionner. Aujourd'hui, est de nouveau questionnée. Et par conséquent, je pense que les années à venir sont, comme pour le climat, primordiales et urgentes. Et je pense que le débat est également primordial et urgent pour cette décennie qui s'ouvre devant nous.
Et dans ces débats, on a souvent eu tendance, en tout cas, à opposer le marché, les entreprises, le capitalisme, avec les États et les pouvoirs publics. Est-ce que cette crise montre, s'il fallait encore le montrer, qu'en fait, les deux vont main dans la main et que, alors que souvent, on attend de l'État qu'elle régule le capitalisme, même si elle le fait de temps en temps, là, on voit quand même que les États ont tendance à jouer le jeu du capitalisme, à renforcer le pouvoir des entreprises plutôt qu'à le réguler. Et j'ai l'impression que ça a été, tu l'évoques dans ton article sur la Colombie, mais d'autres articles aussi montrent qu'en fait, loin de défendre une égalité, loin de défendre les plus faibles, beaucoup d'États, que ce soit au sud ou au nord, ont plutôt tendance à renforcer cela.
Oui, donc, selon moi, il faut comprendre l'État aussi comme un rapport social, un rapport de force entre différents secteurs de la société. Et donc, les politiques de l'État sont finalement le reflet des rapports de pouvoir actifs dans le monde. Et donc, évidemment, si nous avons le poids et la puissance des entreprises aujourd'hui, beaucoup plus forte que le mouvement social, et l'État, reflète ce rapport de force d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire que l'État est un enjeu pour le mouvement social, qu'on le souhaite ou non. C'est là que finalement se cristallise le rapport de force global. Et donc, ce n'est ni étonnant, ce n'est pas étonnant que les États appuient la force de l'entreprise, si nous ne sommes pas en capacité de prendre des parts de cet État et de se battre pour que ça soit différent. Et donc, voilà, il y a eu. En tout cas, c'était intéressant à Glasgow, l'appel de nombreux politiciens présents progressistes de gauche a appelé la jeunesse à s'impliquer en politique, à penser la politique et ne pas le laisser aux autres en disant nous, on veut faire nos collectifs, nos choses en dehors de toute institution et laisser par conséquent les manettes de l'État qui est aujourd'hui en tout cas l'outil déjà là qui nous permettrait de mettre en place des politiques. Mais pour cela, on doit bien évidemment pouvoir peser sur la marche de l'État et ça se fait avec la politique, avec les partis ou des nouvelles formes de partis à inventer. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans la situation dans laquelle on est, avec des formes mouvements partis qui sont possibles, des alliances, etc. Et donc je pense que c'est ce genre de discussion qu'il faut assez rapidement mener pour pouvoir peser, parce que au vu de la situation, décident ceux qui ont les manettes en main, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est eux qui nous proposent aujourd'hui les transitions. C'est non seulement les États qui théorisent et mettent en pratique des transitions au service principalement des entreprises les plus riches, mais c'est aussi même les multinationales elles-mêmes qui construisent des perspectives de transition, Google, Facebook, qui nous proposent les villes intelligentes, vertes, etc., etc. Et donc on a une prise en main de ces questions qui sont essentielles pour nous, pour pouvoir quel chemin on va prendre. Et c'est aujourd'hui les intérêts privés et particuliers des multinationales et des grandes entreprises qui mettent les jalons de la transformation. Et ça, c'est problématique puisqu'on sait. Et je pense que l'histoire récente le montre, les solutions de marché ne vont absolument pas résoudre les besoins qui sont sur la table. Et donc, on se retrouvera dans 20 ans avec des réchauffements beaucoup plus élevés que ce qui est dit aujourd'hui. Et voilà, on doit changer ça d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, c'est à ça que je pense nous sommes convoqués. Et cela passe aussi par le débat d'idées. On peut ne pas être d'accord sur les chemins les choses à mettre en place, mais il faut le débattre en toute franchise entre nous, entre les divers secteurs du mouvement social qui est divers, et je pense que cette diversité est aujourd'hui essentielle. Elle doit être pensée, chose que peut-être il y a 100 ans n'était pas le cas. Donc il y avait beaucoup moins, cette diversité était beaucoup plus faible et donc, cette nouvelle réalité doit nous mener à des discussions sur comment changer son présent. Je prends l'exemple de la Colombie. En Colombie, aujourd'hui, face à cette situation qui est spécialement terrible, puisque la Colombie, elle vit depuis 50 ans dans la guerre, donc la situation est quand même assez différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Il y a, en tout cas, aujourd'hui, une réflexion, puisqu'il y a des élections l'année prochaine, une réflexion parmi la quantité d'organisations, parce que la Colombie, même si sa situation économique et sociale est terrible, compte à l'avantage d'avoir une quantité d'organisations, donc populaires, les paysans, les afros, les indigènes, les habitants des rues des villes, les étudiants, etc. Donc ça fait une myriade d'organisations et de collectifs, et donc la discussion a lieu de se mettre d'accord, d'appuyer une alternative propre pour, en tout cas, commencer à changer. Le changement n'advient jamais tout de suite, et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre la présidence. Maintenant, je pense que, comme on l'a vu aussi dans beaucoup de cas, prendre la présidence, enfin gagner l'élection présidentielle, ce n'est que le début de la transformation. Et donc, c'est toute la difficulté, toute la force nécessaire à gagner ça, pour ensuite devoir continuer encore plus fort à transformer la société en marchant ensemble, en essayant de garder ces priorités communes qui nous permettent de transformer sur le moyen terme, en tout cas, la réalité.
Et précédemment, tu évoquais le pouvoir qu'avaient pris les entreprises. C'est effectivement aussi le sujet de plusieurs des articles qui composent ce numéro du Grésé à Écho. Et donc, justement, alors que les entreprises ont eu plus de facilité à s'engouffrer dans la brèche que la crise leur donnait, et que ce soit par rapport aux restructurations opportunistes, comme le titre Romain Jeannin, ou bien la question du numérique qui est évoquée par Cédric Le Terme, comment expliquer ça, et quels sont les enjeux mis en avant dans ces différents articles?
Oui, donc les grandes entreprises ont cet avantage d'être grandes et donc de pouvoir encaisser des chocs. Et donc, évidemment, toutes n'ont pas été touchées de la même manière avec cette pandémie. Certains secteurs ont tout de même perdu beaucoup de plumes, comme le cas de l'aviation, sans doute, les grandes entreprises de l'aviation qui ont été et qui ont dû être aidées à coups de milliards par tous les États, et d'autres qui, comme le numérique, en effet, c'est peut-être un secteur assez particulier qui était depuis quelques années questionné par son pouvoir, ses pratiques, son business model, et qui est soudainement devenu essentiel. Il a été nécessaire à toutes nos relations sociales, et donc c'est un retournement, en tout cas temporaire, de la situation, et je pense que Cédric l'explique assez bien dans son article, c'est comment ces entreprises sont passées en quelques jours, en quelques semaines, de paria à héros de ce nouveau monde, et ce qui leur a permis, en effet, d'avancer leur pion et d'être, en tout cas, pour l'instant, plus forte que jamais. Ceci dit, tout cela pose tout de même question, et je pense que la conscience de nombreuses personnes sur notre monde et le fait d'être si dépendant du numérique pose question. Les grandes entreprises, en effet, généralement, on peut dire qu'elles ont profité de cette crise, puisque celles qui font le plus les frais d'un arrêt de l'économie, de la pandémie, ce sont celles qui ont moins de capacités financières pour faire face au choc, et donc ça a permis aussi aux grandes entreprises de gagner sur certains concurrents, de pouvoir racheter des actifs d'entreprises en difficulté, et donc sans doute il faudrait encore l'analyser en termes de chiffres, on assistera à une concentration encore un peu plus importante du capital, et donc des mastodontes chaque fois plus grands et chaque fois plus puissants. En plus, et là, tu faisais référence à l'article de Romain, on a bien vu l'élément... quelque chose qui se fait déjà beaucoup, mais c'est l'aide à l'entreprise comme unique façon de soutenir l'économie. Et donc on a vu et on continue à voir au quotidien des milliards et des milliards qui sont donnés aux entreprises, souvent sans contrepartie, sans condition. Et c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, existait avant, mais qui se confirme comme étant la manière pour l'État de soutenir l'économie et donc de transférer encore un peu plus des ressources socialisées, nos impôts, vers des intérêts privés au nom de la sauvegarde de l'emploi et de l'économie. Et donc, elle gagne, comme souvent, sur tous les fronts. Ça s'est passé durant la crise bancaire de 2008, où, après avoir dilapidé les milliards de leurs clients, elles ont été renflouées avec notre argent. Et donc, je gagne, face tu perds, ou vice-versa, je sais plus. Mais voilà, ça revient à dire ce que j'expliquais au début, c'est que sans contre-pouvoir et sans pouvoir organiser en face, il n'y a pas de raison que le business as usual continue pas. Et voilà, donc je pense que il faut ni s'en scandaliser ni s'en offusquer, c'est une réalité et il faut qu'on la prenne sérieusement en compte pour que dans l'avenir, ce ne soit plus le cas.
Et est-ce que c'est juste un rapport de force? Parce que tu évoques effectivement qu'il y avait des aides qui ont été données sans contrepartie. C'est le cas que Romain met en avant dans son article aussi. C'est la question de à quelles entreprises les États ont accordé leur aide et en quoi ça, le fait que, que les États ont continué à apporter de l'aide aux compagnies aériennes qui sont grandes polluantes, mais aussi ça c'est plutôt dans les pays dits du Nord, mais en Colombie c'est des aides qui ont été accordées aux grands propriétaires, aux grandes entreprises agricoles. Qu'est-ce qui... Alors que au début, quand même, il y avait des conditions qui étaient évoquées. Qu'est-ce qui a fait que finalement les États ont accordé leurs aides sans conditions? Est-ce que c'est juste un rapport de pouvoir? Est-ce que c'est la question des lobbies? Est-ce que c'est le fait d'être dépassé par la situation aussi?
Oui, quand on parle de rapport de pouvoir, se joue tout ce que tu dis. Donc, c'est évidemment un rapport de force favorable à la grande entreprise, aux puissants, qui permet ce fonctionnement. Les lobbies font partie de ce rapport de force. La présence de lobbies ou même d'actionnaires, d'avocats de ces entreprises ou dans les postes de pouvoir, et la dépendance aujourd'hui des États vis-à-vis des entreprises qui fait que les gouvernants ne voient pas d'autre solution que de faire ce qu'ils font. Je pense qu'aussi il y a cette réalité-là, il y a une dépendance de l'État vis-à-vis des forces, des grandes forces du capital. Et donc, c'est ce rapport politique qui définit qui va recevoir, qui va perdre, qui va réfléchir à l'avenir, qui devra le subir. De ce point de vue-là, je pense que la politique est celle qui définit l'ensemble et qu'il n'y a pas de cadre qui tienne en dehors de celui-ci. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la Colombie, dans laquelle donc l'État a répondu de manière ultra-violente, en tirant sur les manifestants. Il y a plus d'une centaine de morts, et donc on voyait des images de la police sortant leur arme, tirant sur les manifestants, chose qui partout, ou en tout cas on penserait que partout, devrait faire sauter un gouvernement, devrait envoyer les personnes en prison, devrait scandaliser les institutions internationales, et pas du tout. Finalement, le pouvoir colombien peut le faire. Et personne ne lui dit rien. Et donc, il n'y a pas une situation qui dépasse, à un moment donné, des limites. Finalement, ce qui définit les limites, c'est le rapport de force, c'est-à-dire le rapport politique. Et donc, ça, pour moi, c'est le plus grand enseignement et le respect de la vie, etc., ne pourra être que lorsque des groupes, des collectifs, des politiques, des syndicats imposent ce respect de la vie. Sinon, a priori, il n'y a pas de raison que ça tienne. Il y a évidemment toutes les institutions judiciaires, mais même ces institutions judiciaires, et on le voit surtout dans les pays du Sud, en Colombie en particulier, elles ne sont ni solides et elles permettent finalement, elles avalisent au bout d'un moment la réalité politique à l'œuvre. Et donc ce ne sont que des barrières éphémères, et même si elles restent importantes, et je pense que Anne l'a bien expliqué dans son article sur Uber et les plateformes, et comment aussi les collectifs de travailleurs et de travailleuses de ces secteurs-là, les syndicats, se sont appuyés aussi sur l'institution judiciaire pour faire valoir leurs droits. Donc, mon propos n'est pas ici de dire que ce sont des institutions inutiles. Au contraire, je pense qu'on doit défendre ce qui se retrouve dans les constitutions, qui de nouveau sont une synthèse à un moment donné des rapports de force. Donc quand sans doute les syndicats étaient plus forts qu'aujourd'hui, au sortir de la guerre, etc., au XXe siècle, ces constitutions, elles contiennent des éléments encore tout à fait progressistes, puisqu'elles sont le reflet d'un rapport de force du moment. Je ne suis pas sûr que si on refaisait une constitution aujourd'hui, en tout cas dans certains pays où le mouvement est faible, on aurait des éléments aussi progressifs. Donc voilà, je pense que... voilà, garder en mémoire ce fait-là et continuer à défendre ce qui sont pour nous des principes de défense de la vie, de conditions de vie dignes, acceptables, de logement, etc. Toutes ces choses-là qui font vivre les centaines de milliers de personnes actives dans les collectifs et autres groupes politiques.
Et justement, c'est de ça aussi dont il s'agit dans l'article de Natalia Hirtz qui est en début de revue et qui évoque le fait que le capitalisme patriarcal est au centre de la syndémie, syndémie étant une notion introduite par l'anthropologue Meryl Singer pour désigner l'entrelacement de maladies infectieuses, d'autres maladies associés à leur tour à une répartition inégale des richesses, à la hiérarchie sociale, à un accès plus ou moins aisé au logement ou à la santé, le tout étant inévitablement marqué par la nationalité, la race, la classe, l'âge, le genre et la nationalité, entre autres. Et donc dans cet article, Natalia Hirtz met aussi en avant le fait que l'enjeu, il est vraiment entre le capital et la vie, en fait. Et donc de montrer comment ce conflit entre capital et vie gouverne nos rapports sociaux et renforce les inégalités entre les tâches de production, les tâches de reproduction, les tâches de production étant le plus souvent attribuées aux hommes et les tâches de reproduction aux femmes. Et le fait que ce conflit capital-vie doit être mis en avant, et donc c'est de ça... C'est le lien que tu peux faire aussi quand tu évoques le fait de défendre la vie.
Oui, ce concept un peu de capital contre la vie, je pense qu'il se travaille depuis plusieurs années. On a, en effet, le mouvement communiste a amené la contradiction capital-travail. Et aujourd'hui... disons depuis aussi l'émergence de la réflexion écologique est venue disons le rapport est venu se développer au travers du capital contre la vie et dans son article elle montre de manière Natalia de manière très intéressante c'est que au-delà de cette question écologique et vient se greffer tout l'enjeu du travail de reproduction et du travail de sauvegarde de la vie donc qu'on peut appeler travail ménager, travail reproductif ou selon les auteurs de care et donc ce sont ces activités qui visent à satisfaire les besoins temps matériel, émotionnel, nécessaire à la reproduction et à la soutenabilité de la vie. Et donc, ça enrichit de manière importante cette lecture de Capital Vie, qui est, en tout cas, selon moi et selon de nombreuses personnes, essentielle pour comprendre tant le rapport entre force économique, entreprise et classe populaire, que entre la question, elle fait rentrer dans le concept la question écologique et la question féministe que Natalia analyse de manière détaillée dans son article, avec une approche de différents auteurs et autrices surtout sur cette question. Qui est voilà une invitation aussi à repenser nos concepts et donc par conséquent à repenser nos actions et notamment l'action du mouvement féministe qui aujourd'hui est sans doute un des mouvements les plus prometteurs de transformation et qui bouscule déjà, disons, le statu quo. Je pense que la question féministe et la question écologique sont aujourd'hui les deux pieds sur lesquels s'appuie le mouvement social pour penser le demain, le demain en tout cas émancipé, ou en tout cas plus émancipé, et surtout émancipé du capitalisme. Et donc, voilà, je pense que dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de débats à avoir. Je pense que le mouvement féministe débat beaucoup, et je pense que c'est à travers ces apports différenciés que se construiront les politiques de demain, puisque au-delà du débat, c'est l'action et les priorités d'action qui devront nous mener à combattre les forces qui aujourd'hui s'appuient sur le patriarcat pour continuer leur enrichissement.
Et merci beaucoup Sébastien. Je ne sais pas s'il y a l'un ou l'autre point qu'on n'aurait pas abordé, que tu aurais voulu souligner par rapport à ce numéro que tu as coordonné. Donc, peut-être quels sont le dernier article, donc celui de Anne sur les plateformes que tu as évoqué. Effectivement, ça montre aussi la capacité du mouvement social de se reconstruire aussi, parce que le fait que les livreurs et les livreuses aient pu s'organiser de manière locale mais aussi internationale sans forcément avoir un soutien inconditionnel de la part du monde syndical en général, même si en Belgique ce mouvement a pu bénéficier du soutien notamment de la CNE, je pense, pour s'organiser. Et ça montre aussi le fait que, alors que le travail change, les modes d'organisation aussi pour les revendications liées au monde du travail et à l'emploi doivent changer aussi.
Oui, je pense que les nouvelles formes de travail qui sont aujourd'hui imposées par les plateformes, elles ont comme conséquence aussi, non souhaitée de leur part en tout cas, c'est la réorganisation de ceux qui la subissent pour s'y opposer. Et donc c'est cette dialectique-là qui est importante de comprendre, c'est que malgré toute la violence qui peut être mise en place, les gens se défendent et s'organisent et pensent l'alternative. Et donc c'est là où réside, selon moi en tout cas, toute l'espérance et toutes les perspectives pour les mouvements, pour les collectifs de travailleurs et de travailleuses, de penser l'alternative et de construire l'alternative. Et donc, c'est pour ça que, enfin voilà, pire est la situation, peut-être plus forts sont les mouvements, dans un sens, et elle le montre bien à travers son article, que malgré le peu de soutien, la difficulté du moment, ça n'empêche pas, pour la plupart, ces jeunes travailleuses et travailleurs de s'organiser de manière internationale, avec des outils en ligne, des connexions qui n'existaient pas auparavant et qui aujourd'hui sont un apport aussi de ces luttes-là pour tout le mouvement social. Et donc, je resterai sur cette note positive, qui est de dire que malgré la situation, les gens n'abandonnent pas et s'organisent et pensent l'alternative et construisent l'alternative. Et ça, c'est un enseignement important de l'histoire et qu'il faut garder en tête pour penser l'avenir. En conclusion, moi, je voulais juste vous faire part d'une activité qu'on prévoit avec le Grésea, puisque évidemment ce numéro a essayé de penser le monde d'avant, le monde d'après, et donc penser ce monde d'après pour donner des outils pour le transformer. Et donc on va lancer un cycle de conférences qui s'intitulera « Dépasser le capitalisme », avec une série de conférences sur ces questionnements-là. Et la première aura lieu au mois de janvier, le 11 janvier. Vous aurez plus d'informations sur notre site internet, qui s'intitulera, elle, « Figurer le communisme ». Et on aura la chance et le privilège de recevoir Bernard Friot et Frédéric Lordon pour un débat entre ces deux intellectuels et penseurs du dépassement du capitalisme. Et voilà, je pense que ça sera, en tout cas, et on l'espère, un moment pour repenser le dépassement du capitalisme et comment l'organiser avec celles et ceux qui en subissent au quotidien la violence.
C'est une belle affiche, en tout cas. Et est-ce qu'on a un endroit déjà ?
Je pense que c'est le Jacques Franck, mais je pense que...
On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, aussi ici sur les ondes de Radiophanique d'ici là. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastienne, d'être venue présenter ce numéro du Grésea Echo qu'on peut se procurer.
Oui, merci à toi, Zoé, de l'invitation. Et on peut se le procurer en envoyant en tout cas un mail ou info@grésea.be que vous trouverez sur notre site internet, toutes les informations sur grésea.be.
Et je vous invite à vous abonner carrément à la revue. C'est une bonne lecture trimestrielle.
Je vous y invite également.
Merci beaucoup et bonne journée.